désolé pour la technique. Voilà. Jacques, de vous...
Ça va, je vous ai tué.
Oui, ça ira, merci, je te remercie. De vous parler du potier. Vous avez déjà... Enfin, peut-être que dans le sud, il y a plus de potiers que dans le nord, mais dans le nord, il y en a aussi. Quand vous entrez dans l'atelier d'un potier, qu'est-ce que vous voyez? Il y a des vases partout. Il y a des vases partout, il y en a qui sont beaux, il y en a qui sont moches, enfin, selon votre propre schéma d'esthétique, n'est-ce pas? Et pour d'autres, ce seront d'autres vases, n'est-ce pas? Et puis, le potier est là, il est sur son tour, en train de travailler, et puis il vous dit bonjour, mais il ne peut pas vous serrer la main parce qu'il y a de la glaise partout. Et dans les pays où il n'y a pas d'électricité, on voit le gars, il tourne avec son pied une meule de moulin horizontale et puis il fait tourner son plateau, là. Et puis chez nous, c'est plutôt, on tourne le moteur, puis il tourne. Et puis disons qu'à 200 tours minute, enfin, il peut régler en fonction de ce qu'il veut. En tout cas, il arrive à un moment donné à faire des choses extraordinaires. Moi, je trouve ça extraordinaire. Quand vous voyez un potier travailler, c'est presque magique. Il prend de la glaise, pof, un gros morceau, paf, il met là-dessus, et puis, et tout d'un coup, vous voyez un vase apparaître, mais de manière magique. C'est extraordinaire. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, ce vase! Vous n'avez même pas eu le temps de finir que, paf, il a donné un coup de pied, un coup de main, parce que, pas de pied, non, parce que c'est... Un coup de main, un coup de poing sur son joli vase, et puis on lui dit, mais pourquoi tu viens de le casser? Il était tellement beau, ce vase. Ah non, il n'était pas beau. Non, il n'était pas bon. Mais il était beau. Il était peut-être beau, mais il n'était pas bon. Oh. Puis il reprend la même glaise, et puis il en refait un, et puis il vous remonte le vase comme ça. Ah, il est beau celui-là. Oui, il est beau et il est bon aussi. Ah, et pourquoi? Ben parce que le premier qu'on avait fait, il était son derrière, là, il était trop épais, et puis le bord était trop fin. Il aurait séché avec des tensions internes, et puis il serait cassé. Et même de toute manière, mais si ce n'était pas fissuré, on l'aurait mis au four, et au four, clac, il aurait cassé. Oh, c'est extraordinaire cette histoire. Le vase du potier. Il y a aussi d'autres images dans la parole de Dieu et qui m'ont interpellé et dont je veux vous faire part. Dans le Cantique des Cantiques, il nous est dit « Mets-moi comme un seau sur ton cœur, mets-moi comme un seau sur ton bras. » Et on sent que c'est la bien-aimée qui parle à son bien-aimé, qui lui dit « Je veux être ta propriété. » Et tu mets un seau sur mon bras. Tu mets une empreinte sur ma personne. Et vous avez d'autres versets dans la parole de Dieu qui nous parlent de l'empreinte. Et vous avez remarqué, par exemple, je pense que c'est à Cannes, hein, qu'il y a des artistes, enfin on dit des artistes, mais ils ne sont peut-être pas tous artistes, mais enfin en tout cas, ils ont le privilège d'avoir leurs mains qui sont dans le béton. Vous voyez ? Et les plaques de béton, il est marqué, c'est un tel, bon, je ne connais pas moi, ça ne m'intéresse pas trop. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces plaques de béton n'ont aucune valeur en soi. Par contre, avec la marque de Schwarzenegger, ou de je ne sais pas qui, alors là, c'est une plaque qui vaut vraiment quelque chose. Et vous avez remarqué que lorsque vous mettez de la cire, enfin c'était dans l'ancien temps, sur le cachet pour fermer la belle enveloppe que vous alliez envoyer, la lettre d'amour que vous envoyez à votre futur conjoint ou conjointe, et puis pouf, vous mettez un petit seau dessus. Ce qui est beau, c'est la cire, bien sûr, elle est belle, mais c'est surtout la belle image de ce qu'il y a d'imprimé dans la cire. Le potier, il a toujours de l'argile impeccable. Il ne va jamais prendre un morceau d'argile avec des grumeaux. Il n'y a jamais de paille dans son argile. Son argile est tellement bien malaxé qu'il s'arrange pour que cette argile soit parfaite en matière. Seulement, c'est un vulgaire morceau de glaise. Par contre, quand il devient un vase, il devient quelque chose. Il a au moins une fonction. Et lorsque vous regardez dans son atelier, il y en a bien un au moins qui va vous plaire. Maintenant, dans Genèse au chapitre 2, au verset 7, il nous est dit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le Seigneur nous révèle ici que la vie ne sort pas de la matière. Il faut bien que nous nous rendions compte, nous le savons, nous l'avons toujours lu, que nous sommes faits de deux choses. De quoi ? De l'argile, de la poussière, et du souffle de vie. La vie vient d'un principe immanent, transcendant, comme on dit, elle vient de Dieu, et il y a deux choses. L'argile et la vie de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, verset 19, vous avez, c'est à la sueur, ce texte que vous connaissez bien aussi, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es argile, tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. C'était pas prévu. Donc, de toute manière, à un moment donné, il s'est passé quelque chose qui fait que ces deux principes qui étaient intimement liés, argile et vie de Dieu, sont en train de se déliter, de partir. Hélas, nous en sommes tous là. Le Seigneur nous révèle ici que si nous n'avons pas de réserve d'essence, la voiture s'arrêtera de tourner un jour. Même si nous avons l'impression que la vie est éternelle, et c'est souvent ce qu'on a dans notre idée, parce que c'est naturel et c'est normalement comme ça que ça aurait dû marcher, eh bien, sans la vie de Dieu, tout retourne à l'inerte, sans vie. Le potier a façonné son œuvre, il a rempli ses vases, il a mêlé son vin. Seulement, ces vases se sont fissurés. Il fuit. Un jour, il casse. Et vous connaissez l'histoire, il nous est dit, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Le cordon d'argent se détache, le vase d'or se brise. Le seau se rompt sur la source. La roue se casse sur la citerne, vous savez, ces dames qui allaient tirer de l'eau avec la roue. La poussière retourne à la terre comme elle y était et l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste chapitre 12. Deux principes qui devaient normalement rester ensemble. Tout tourne mal. On a l'impression que Dieu aurait mieux fait, et là écoutez-moi bien, Dieu aurait mieux fait de tout casser dès ce faux départ pour ensuite tout reconstruire. Vous voyez, c'est la mentalité qu'on peut avoir et que beaucoup ont. Tout reconstruire, même si l'homme s'évertue à scier la branche sur laquelle il est en sécurité, Dieu l'en empêche jusqu'à l'extrême limite. Dieu arrive à empêcher l'homme de se scier la branche sur laquelle il se trouve. Mais il y a un moment donné, quelquefois, il n'y arrive plus. Et ce n'est pas la faute à Dieu, c'est que vraiment, il faut faire quelque chose. Comment se fait-il que Dieu accepte la situation ? La souffrance des gens qui n'y sont pour rien. Après tout, c'est la faute d'Adam et Ève. Et c'est pas notre faute quand même. Vous voyez, il y a ce principe-là bizarre qui nous fait dire que c'est pas notre faute. Et que Dieu, il est incompétent parce qu'il a laissé faire cette situation. Il aurait dû tout casser pour tout reconstruire. Mais il l'a pas fait. Alors, je crois que dans notre intelligence, éclairée par le Saint-Esprit, nous comprenons quand même que certainement que Dieu a raison. Mais c'est quand même choquant. Nous comprenons le système qui existe. Ça ne marche pas, poubelle, pouf. Voilà, je ne fonctionne pas avec toi, je te jette. Vous voyez, c'est le système du jetable d'aujourd'hui, et c'est un peu ce qu'on voit un peu partout. Je te jette. Voilà. Quand c'est un objet, ça va. Si c'est un vase, ça va. Mais si c'est un individu ou des employés ou un patron, enfin, etc., c'est pas la même chose. Certains ont dit, le vase du potier est fissuré, eh bien, c'est la faute du potier. Si l'ordinateur ne fonctionne pas, c'est quand même pas la faute du... c'est la faute du programmeur, c'est la faute du concepteur. Et prenons l'évangile de Jean. Jean, pour répondre à cette question, dans Jean chapitre 9, versets 1 à 12, il nous est dit que Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent la question, et je traduis au style potier, si vous voulez. Ils lui posèrent cette question. Le vase se fissure quand on a fait une faute. C'est la mentalité des disciples. Le vase se fissure quand on a fait une faute. Donc, il avait déjà péché quand il était dans le ventre de sa mère. Et ça ne marche pas, cette histoire. C'est pas logique. C'est ce qu'ils disent, les disciples. Seigneur, c'est pas logique, cette histoire. Qu'est-ce qui se passe ? Et que fait Dieu ? Il crache par terre, vous savez bien. Dieu crache par terre, je dis bien, il fait de la boue, de la poussière de la terre, de l'argile de la terre, et avec sa salive, l'applique sur les yeux de l'aveugle. Le Seigneur nous révèle ici, puis vous connaissez la suite bien sûr, mais le Seigneur nous révèle ici que nous avons besoin de Dieu nouveau, Dieu qui regarde, des yeux spirituels probablement, hein, de sa propre création. Comme pour l'apôtre Paul qui perdit des écailles de ses yeux, Dieu voudrait que nous voyions clairement les choses. Si tu crois que si parce que le vase ne marche pas, c'est la faute du potier, tu te trompes, Étienne. Enfin, vous mettez votre prénom, et voilà. Nous sentons que nous ne voyons pas les choses totalement. Il y a des éléments à ce problème insoluble, la souffrance, insoluble, qui nous échappe. Nous sommes tous des vases destinés par le potier à bien fonctionner, et ça ne fonctionne pas, ou ça fonctionne très mal. Tous destinés par le potier à bien fonctionner. Il n'a pas créé de mauvais vases et de bons vases, comme certains le pensent lorsqu'ils lisent Romains chapitre 9. Dieu, s'il a supporté des vases de colère, et s'il a aussi donné des vases de miséricorde, vous connaissez, hein? Ça voudrait dire que Dieu, il aurait choisi des vases de colère, et qu'il aurait choisi des vases de miséricorde, et heureusement, nous sommes des vases de miséricorde. On a eu de la chance, c'était programmé dès le départ, si j'étais un vase de colère, j'aurais été un vase de colère pour toujours. Vous voyez, un peu ce genre de situation curieuse. Alors si l'ordinateur ne fonctionne pas, est-ce la faute de son créateur? On aurait tendance à dire que oui, n'est-ce pas? L'ordinateur ne fonctionnait pas dès le départ, et c'est donc pas la faute de l'ordinateur, il faut sortir de cette logique. Nous ne sommes pas des machines. Nous ne sommes pas des robots. Et voilà. Préférerions-nous être des robots? Certainement pas. Parce que nous ne devons pas oublier que Dieu a formé un homme avec deux éléments, pas un seul. Un élément, la poussière de la terre. La poussière de la terre, en fait, aujourd'hui, on donne plus de noblesse à cette poussière. Aujourd'hui, on dit que ce sont des molécules de matière. Ce sont des acides aminés. C'est l'adénine, guanine, cytosine, thymine qu'on trouve dans tous les systèmes de vie de la planète. Tout. La paramécie, le microbe, l'herbe, et puis nous. Même chose. Le souffle de vie, c'est autre chose. Le souffle de vie, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, c'est autre chose. Et dans Jean 9, 39 à 41, qui fait suite à l'histoire de l'aveugle, hein, de l'aveugle né qui a été guéri, Jésus nous donne un peu une réponse pour cette histoire de faute du vase ou pas faute du vase, sa relation potier-vase. Dans le verset 9, dans le chapitre 9, verset 39 à 41, il nous est dit, Dieu, il dit qu'il est venu dans ce monde, Dieu Jésus, enfin Dieu, est venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui croient voir ne... Enfin, que ceux qui voient deviennent aveugles. En fait, ceux qui croient voir soient vraiment aveugles. Comment fonctionnons-nous? Voilà ce que l'on dit. J'ai un vase qui est fichu et j'estime qu'il faut le remplacer, le casser, le remplacer en prendre un autre, un tout neuf, et je redémarre. Est-ce que c'est Dieu? Dieu a fait ça? Non. Vous savez très bien que non, que Dieu n'a pas fait ça. Eh bien Dieu, il n'a pas fait ça, et vous le voyez bien, il s'introduit dans le monde pour travailler dans le cœur des vases, de chaque vase, pour que ces vases soient sauvés. Mais misère, quelle... Je vais être hérétique, je vais dire, mais quelle bêtise Dieu tu as fait. Tu te rends compte, tu t'es emberlificoté dans un système inextricable. Tu aurais mieux fait de tout virer. Il ne l'a pas fait. Il m'a gardé. Enfin, c'est pas moi qui l'a gardé, c'est Adam et Ève. Et c'est toute la descendance d'Adam et Ève. S'il avait viré Adam et Ève, ça aurait été autre chose. Et en descendance génétique, ça n'aurait pas été moi. Ça n'aurait pas été toi. C'est-à-dire que parce que tu es, Dieu n'a pas voulu. Et qu'il a désiré, dès avant la fondation du monde, nous aimer chacun, nous, personnellement, au XXIe siècle. Nous sommes aimés de Dieu, et même si ça crée des complications inextricables, il accepte les complications inextricables. Ceux qui ne désirent pas être sauvés ne pourront malheureusement pas être sauvés. Logique. Si vous désirez rester aveugle, vous le resterez. Monsieur de la Palisse en aurait dit tout autant. Nous voyons donc ici qu'il y a une différence entre le vase et un être humain. D'un côté, c'est de l'argile. De l'autre, c'est autre chose. C'est quoi? Eh bien, c'est un mélange d'argile et de vie. C'est un mélange d'argile et de vie, et c'est extraordinaire, et c'est incompréhensible. On ne peut pas trop le définir, mais on sait que c'est ça. Ce n'est pas de l'éponge avec de l'eau dedans, c'est quelque chose qui est un mélange entre l'argile et la vie. On ne peut pas dire, tiens, ça c'est l'argile, je vire l'argile et je garde la vie. Ce n'est pas possible. C'est pas dans le concept de Dieu. Il y a quelque chose qui fait que l'argile est interpénétrée par la vie de Dieu et les deux sont ensemble. Ça doit être même probablement physiologique, mais là je peux pas, j'ai pas de compétences pour vous parler de cela. On pense à l'âme, on pense à l'esprit, on pense au corps. Et vous savez que nous avons une philosophie grecque dans notre tête, même si les musulmans qui nous l'ont transmis l'avaient aussi, puisque c'est par l'islam que c'est venu chez nous. Eh bien, nous pensons qu'on peut couper l'esprit, quick, qu'on peut couper l'âme, quick, et qu'on peut extirper le corps. Vous voyez, mais tout ça, c'est un seul être, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé pur pour l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et c'est une chose qui est très intimement liée et que nous ne pouvons pas disséquer. Il y a peut-être le Seigneur qui peut, avec son épée de l'esprit, réussir à nous nettoyer et enlever ce qui est de l'âme et de l'esprit. Hein? Mais donc, voyons cette autre chose maintenant. Les molécules de matière fonctionnent très bien depuis des millénaires. Mais et encore, il n'y a pas longtemps, il y a des scientifiques qui nous ont montré que nous pourrions être éternels matériellement. C'est des problèmes de, oh, je ne sais plus, c'est les capsules de l'ADN à la fin là, j'ai oublié le nom, mais qui se vieillissent. Mais si on arrivait à garder ces capsules propres et nettes, il serait possible d'être éternel, physiquement. Hein. Physiquement. Donc, les molécules de matière, ça peut fonctionner. Moi, je suis absolument persuadé que Dieu pourrait nous faire éternels dans notre corps actuel. Mais le souffle de vie, ça ne marche pas. Ça ne marche pas tout aussi bien. Ça ne marche pas du tout, d'ailleurs. Parce qu'on sait qu'à la fin, on meurt. Il y a ce principe de mort qui a été introduit du temps d'Adam et Ève et qui est parti, enfin, qui fait qu'à un moment donné, tout se sépare et que le corps retourne à la poussière et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Dans Jérémie chapitre 18, versets 1 à 10, Dieu parle à Jérémie. Vous savez que Dieu parle souvent à Jérémie comme il nous parle à nous, bien sûr. Je vous avais parlé d'une fois de ce que disait Dieu à Jérémie. Il dit, tu sais, Jérémie, si tu te fatigues avec des piétons, qu'est-ce que tu feras lorsqu'il y aura des chevaux ? Et donc, Jérémie comprend que Dieu lui dit, écoute, je tiens compte, même si tu es solide, Jérémie, je tiens compte de ta fragilité dans un monde très hostile. Je suis obligé d'en tenir compte pour que tu restes en vie. Mais là, au verset 1 à 10 du chapitre 18, nous avons un indice pour la réponse aussi. C'est la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Jérémie s'en va, il descend dans la maison du potier, et qu'est-ce qu'il remarque ? Des vases partout, le potier avec sa glaise, il tourne avec ses pieds parce que les moteurs électriques, ça n'existait pas encore, et il le regarde faire. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Normal. Ah bon ? C'est normal. Il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Il en refit un vase. Il en refit un vase. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël ? Dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Soudain je parle sur une nation, sur un royaume d'arracher, d'abattre et de détruire, mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. Logique. Ah, pourtant, il était bien parti, hein, pour être mort. Ninive, par exemple. Enfin, c'est arrivé un siècle et demi plus tard, mais bon. Et soudain, je parle sur une nation, sur un royaume de bâtir et de planter. Mais si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, et n'écoute pas ma voix, je me repens du bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Vous avez remarqué, il en refit un autre vase. Il en refit. En hébreu, c'est il recommença et il le fit. C'est-à-dire, il y a les deux termes, c'est bien, il reprend la même argile, il refait quelque chose avec la même argile. Excusez-moi, mais il faut quand même il ne faut pas être choqué par ce que je vais dire, mais on est facilement catégorique. Moi hein, aussi, hein, bien sûr. Il y en a même qui ont conçu des théories qu'on pourrait résumer ainsi. Il faut détruire les mauvais vases pour que la race humaine soit meilleure, ou l'idéologie humaine soit meilleure, ou que la religion humaine soit la meilleure, ou que n'importe quoi. Il faut détruire certains vases. Et il y a ce genre de situation sinistre qui nous inquiète. Dieu n'est pas du tout comme ça. Tous les vases sont précieux pour lui. Les extrémistes, les religieux, les patrons, les ouvriers, les parasites, enfin tout ça, tous ces mauvais vases, hein, les immoraux, et bon, aujourd'hui, on en a des exemples. Notez bien que Dieu n'est pas du tout comme ça, on s'en serait douté, hein, vraiment. Dieu est prêt à modifier la façon dont il devait concevoir le vase à cause du vase. J'ai dit quelque chose presque d'hérétique là. Dieu change ses plans? Non, il ne change pas ses plans. Il est prêt à modifier, il nous l'a dit. Il a dit clairement, donc on peut quand même se fier à ce qu'il dit. Il dit, si une nation se repent, moi, je me repens aussi. Et si une nation pense que, puisqu'elle est très obéissante, moi, je ne vais jamais la punir, eh bien, il se trompe aussi. Il modifiera les choses en fonction de son vase. Mais c'est prodigieux, ça. Il va modifier les moyens de son plan, mais pas son but, parce qu'il aime son vase. Oui, l'esprit de vie qu'il a mis en nous lui permettra de nous bénir, de nous façonner, de nous corriger avec notre participation. Vous remarquez, et c'est prodigieux, qu'il nous fait participer à la conception de notre propre vase. C'est pas l'esprit, enfin, l'âme et le corps sont tout intimement liés. C'est pas que Dieu aurait pu faire autrement. Mais la nature profonde de Dieu a fait que nous sommes tout intimement liés dans toutes les composantes de notre nature. Nous sommes corps, âme et esprit tout imbriqués. On ne peut pas les disséquer. Donc si tout tourne mal, il y a quand même une action de Dieu là où tout tourne mal pour que ça puisse tourner un peu mieux. Et ça tourne de mieux en mieux pour nous, on peut le dire. Il a du boulot avec le boulet que je suis, mais... C'est comme ça. Hein. Et l'apôtre Paul était persuadé, ça a été dit dans les prières, que celui qui a commencé cette bonne œuvre en nous la rendra parfaite pour le jour de Christ, pour le retour de Jésus. Et ça, c'est prodigieux. Que Dieu arrivera de toute manière à présenter l'Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et il arrivera à son but, c'est sûr. Quelquefois, on comprend qu'il y en a qui ont été découragés et qui, dans des situations extrêmes, dans la torture et la maladie, se décourage. Ne nous décourageons pas, chers frères et sœurs. Cette histoire, elle est temporaire aussi. Donc, c'est pas la faute du potier, mais en plus, le potier ne désire pas détruire son vase. Dans Ésaïe 45:9, encore une histoire de vase. Nous avons encore un autre indice pour la réponse. Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi les vases. L'argile dit-elle à celui qui le façonne, que fais-tu? Et l'œuvre dit-elle à l'ouvrier, il n'a pas de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi tu m'as engendré? Et à sa mère, pourquoi tu m'as enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir? Me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui, sur elle, ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est moi qui ai suscité Cyrus, alors, entre parenthèses, un chien d'étranger, pas un juif, un perse. Oh, quelle horreur! C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice et j'aplanirai toutes ses voies. Il rebâtira ma ville et libérera mes captifs. sans rançon ni présent, dit l'Éternel des armées. Même pas besoin d'argent. Je ferai ça par ma puissance, dit Dieu. Et je le ferai avec qui? Un super messie juif, glorieux, etc. Non, ce sera un étranger. Ah bon? Et vous avez remarqué que Dieu dit, c'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, dans ma justice. Vous notez bien que le potier a pris un vase étranger pour sauver des juifs trop fiers de leur religion. Ces religieux ont voulu donner des conseils à Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Mais enfin, tu te rends compte, c'est pas comme ça qu'on fait. Ben, tu aurais dû faire comme ça. Mais enfin, Dieu. Je dis ça, je ne me moque pas de vous. Je me moque de moi-même. Je vous avoue, je l'ai déjà fait, moi. Je dis, mais Seigneur, tu me demandes d'être intelligent. Et puis, tu me demandes en même temps d'être pas intelligent. Non, écoute, Seigneur, j'arrive à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais explique-moi. Et quelquefois, je suis à la limite de l'irrespect envers mon Seigneur, et je vous demande pardon pour ça, enfin je lui demande pardon pour ça, mais j'ai envie de lui dire des choses. Et je crois que Dieu nous écoute quand on veut le dire sincèrement, sans revanchard, enfin, sans murmure, sans contestation, sans agressivité, si vous voulez. Hein? Voilà. Trop fiers de leur religion, ces religieux ont voulu donner des conseils à Dieu. Que fais-tu? Toi, celui qui a construit. Eh bien, c'est pas vrai, c'est pas toi qui nous as construit. Hein, on comprend aujourd'hui, hein, on comprend très bien ce genre de choses. C'est devenu des institutions universitaires même. C'est pas Dieu qui nous a construit. Je pense que c'est nous qui nous sommes construits, nous-mêmes. Et nous avons aujourd'hui l'idéologie du « nous nous sommes construits nous-mêmes ». Il y a des théories, des philosophies comme ça. John Barrow, Frank Tipler, je ne sais pas s'il y vit encore cet homme, mais qui dit que l'humanité est en train de s'auto-construire et qu'elle s'auto-construit depuis l'inerte, de toute manière par le hasard, hein, bien sûr, il n'y a pas de Dieu, et qu'elle est en train, cette humanité, de se construire, devenir omnipotente, bombe atomique, omnisciente, les sciences, et omniprésente, les avions. Et qu'un jour, nous serons omnipotents, omniprésents et omniscients. C'est-à-dire que l'humanité sera Dieu elle-même, sans Dieu. Il y a des philosophies comme ça. Hein? Nous voyons que ce n'est pas nouveau. Nous, nous sommes construits nous-mêmes, ce n'est pas toi Dieu qui nous construit. Nous comprenons alors que l'idolâtrie du peuple d'Israël était essentiellement une suffisance et une propre justice tellement enflée que leur fierté nationale était devenue plus importante que Dieu lui-même. Le vase osait dire au potier qu'il était plus important que le potier. C'est le syndrome du veau d'or. Vous savez que le veau d'or, c'était pas un autre dieu, c'était Dieu, mais en image. Le veau d'or. Je dis que j'honore Dieu pour la façade, mais en fait, je m'honore moi-même sous couvert d'un Dieu qui se voit. Donc, je récapitule. Premier point. Dieu a poussé son amour à l'extrême en acceptant non pas de nous détruire, mais de nous refaçonner. Mais avec notre accord. Parce que Dieu est un Dieu poli, respectueux. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 4, versets 21 à 24. Vous avez été instruits à vous dépouiller. Instruits, mais quand on est instruit, on n'est pas obligé d'obtempérer. C'est-à-dire qu'on peut adhérer à ce qui nous a été enseigné, mais on n'est pas obligé on est toujours libre, hein, même en tant que chrétien. Vous avez été instruits à vous dépouiller, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Donc Dieu façonne son vase, il lui donne à l'intérieur, je ne sais pas comment il fait, mais il le fait, hein, des lumières. Pas partout, mais des lumières, il en voit une, et puis après il en voit une autre. Ah, là aussi, oh, Seigneur, c'est horrible, tu vois mon caractère. Et puis quand c'est fini, c'est autre chose, et puis ça continue. Hein? Donc, renouveler dans l'esprit de notre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je veux être vrai avec Dieu. Seigneur, je ne suis toujours pas vrai avec toi, mais je veux essayer d'être toujours le plus vrai possible. Seigneur, tu me laisses tomber sur tout ce qui n'est pas vrai chez moi. Tu vois, je suis déjà vrai pour ça. Et puis, tu vas t'occuper du pas vrai un peu plus tard. Hein? Et la lumière va être là-dessus, sur ma vie. Et de plus en plus, ça ira mieux. Voilà. C'est un peu comme si un potier vous demandait de participer au façonnage de votre propre personne. C'est comme si Bon, ça se trouve peut-être dans des films, hein, comme genre Alice au pays des merveilles. On voit le vase qui commence à parler avec, hein, mais ça, c'est dans les films, hein. Mais en fait, c'est pas non seulement dans les films, mais c'est dans la réalité spirituelle. Nous ne sommes pas comme un potier et un vase qui est tout avachi, en train de sécher au soleil. Non, nous sommes autre chose qu'un vase. Mais Dieu donne une image pour essayer de nous faire comprendre. Parce qu'il n'y a jamais de vraie entière similitude entre une parabole et la réalité des choses. C'est un peu comme si un potier nous demandait de participer au façonnage de notre propre personne. Dis-moi, mon cher vase, tu veux bien que je te façonne un peu? Non, pas maintenant, répondit le vase. Le processus de sanctification en moi est arrivé au bon stade, tu sais. Ça me convient, mais pas plus loin, mon cher potier. Jusque-là, pas plus loin. Et Dieu attend patiemment que son vase accepte un cran de plus, un cran de nouveau pour avancer avec lui. Et il attend patiemment, depuis des siècles. Et puis des années pour moi, hein. Deuxième point, nous venons de voir que certains vases se sont crus plus importants que le potier. D'un côté, Dieu qui s'humilie pour sauver sa créature, qui vient du fin fond, enfin pas du fin fond, mais de très haut, pour venir s'humilier et prendre la place du serviteur et mourir comme un simple homme, et même pire que ça, comme un malfaiteur sur une croix il y a 2000 ans. Dieu qui s'humilie pour sauver sa créature. Et de l'autre, une créature qui s'enorgueillit de son indépendance par rapport à Dieu, tout en étant religieuse. Parce que l'athéisme est aussi une religion, enfin une philosophie. Mais bon, hein, bon, une créature qui veut faire croire qu'elle est religieuse et qui en fait n'adore qu'elle-même. Je ne parle pas des athées, ni des évolutionnistes forcément, ni des idées progressistes en tout genre, avec un et des guillemets, les progressistes. Hein. Non, je parle des religieux du temps d'Israël. Seulement aujourd'hui, ne trouvez pas qu'on peut trouver des similitudes de caractère avec notre monde d'aujourd'hui. Et Dieu nous supporte à un point tel que ça, c'est inimaginable. Il a de l'amour pour ses créatures, ce Dieu-là. Passons au troisième point. Dieu est souverain, mais le vase a quand même une discussion serrée avec le potier. Dieu est souverain, nous le savons, mais nous avons des discussions, comme je vous l'ai avoué tout à l'heure, serrées avec le potier. L'apôtre Paul nous en révèle la teneur dans Romains chapitre 9. Ce chapitre est un argument que les jansénistes trouvent solide. Tout comme ceux qui pensent que nous sommes prédestinés. Hein, la Fédération protestante de France, par exemple, enfin les calvinistes. Hein, sans possibilité de changer d'avenir. En effet, dans ce chapitre 9, l'apôtre Paul nous montre son intense affection pour le peuple d'Israël. Au début du chapitre 9, il dit « Je voudrais être anathème pour ma famille, pour mon papa, pour ma maman, parce qu'ils sont juifs et ils n'ont pas compris le salut en Jésus-Christ. » Il voudrait qu'il soit sauvé, mais par un naturel. Mais il explique aussi que tout Israël n'est pas Israël. Et il dit aussi, d'une certaine manière, que je ne suis pas vraiment sûr qu'un jour mes parents vont se convertir, ou mes enfants, ou etc. Je ne sais pas. Ça ne dépend pas de moi. Ça peut être une prière, mais ça ne dépend pas de nous. Ça dépend quand même du vase, hein, de chaque vase. On ne peut pas déléguer le vase, enfin notre responsabilité de vase à un autre vase, même si c'est un petit vase que nous avons pondu nous-mêmes avec notre épouse ou notre époux, et que ça fait un autre vase. Hein. Et celui-là, il est autonome aussi. Il est tout seul dans son monde. Il explique que tout Israël n'est pas Israël. Pourquoi ? Parce que Dieu semble avoir décidé de choisir Jacob plutôt qu'Ésaü. C'est marqué, hein ? Il choisit Jacob plutôt qu'Ésaü. Ouais. Alors certains ont dit, vous voyez bien que c'est pas la faute d'Ésaü s'il est mauvais, si c'est un mauvais vase. Et c'est pas Jacob qui s'est créé comme bon vase. Ça a été fait dès le départ. Hein? C'est Dieu qui a tout décidé, la preuve c'est écrit. Alors voilà. Mais non, il n'est pas du tout écrit ça. Du tout. Il n'est pas du tout écrit que les choses sont programmées comme pour un ordinateur. Le verset 33 du même chapitre, au dernier verset de ce chapitre 9, nous dit que le vase intervient aussi dans cette affaire, le vase. Moi, toi. Il est écrit, voici, je mets en sillon une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. J'ai mis quelque part un truc qui est comme un coup de pied dans une fourmilière pour balayer les certitudes de ceux qui ont trop de certitudes sur eux-mêmes. Et celui qui croit en lui ne sera pas confus. Celui qui croit en Jésus ne sera pas confus. C'est grâce à ce verset 33 que nous pouvons comprendre les versets 21 à 26 du même chapitre. Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Alors on a l'impression que le maître, il a décidé qu'il y aurait des vases d'honneur et des vases d'usage vil. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi, il nous a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, ma bien-aimée celle qui n'était pas ma bien-aimée. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Conclusion. Premièrement, heureusement que Dieu n'est pas un potier qui casse tout, hein, et qui casse tous les mauvais vases. Deuxièmement, heureusement que Dieu ne s'irrite pas contre les vases qui se croient plus importants que le potier. Et enfin, troisièmement, Dieu nous fait participer à notre salut. Oui, j'ose le dire, parce que c'est embêtant cette histoire. Et je continue, attention, je ne m'arrête pas là, et surtout ne vous arrêtez pas là. Dieu nous fait participer à notre salut sans nous en rendre les honneurs. Il nous fait participant du salut tout en étant l'entier responsable du salut. C'est toujours le potier qui donne totalement le salut. Mais son vase n'est pas que de l'argile. C'est pas une masse inerte. Donc, c'est lui le salut. Mais nous pouvons participer à notre salut parce que Dieu nous y a autorisés. Parce que nous ne sommes pas que de l'argile. Il fait donc participer son vase à sa propre construction. Il dit, papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Alors papa, il est sur l'établi. Hein? Ah, je regarde. Je te regarde. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Oh, on va faire une petite voiture, etc. Vous voyez, vous, alors papa dit, non, pas une petite voiture, une vraie voiture. Et puis le petit enfant, il se met à construire avec son père. Eh bien, c'est un peu ça, nous. Avec Dieu. Et on voit ça aussi dans Proverbe, quand il est dit qu'il jouait sur le globe de sa terre avec Dieu, le Fils. Il y a quelque chose peut-être de ça. Hein? Il fait donc participer son vase à sa propre construction. C'est prodigieux. Là où le catholicisme s'est trompé, c'est de croire que participer à son propre salut est méritoire. Ça ne mérite rien, c'est le fonctionnement normal que Dieu a décidé. Ça ne nous donne rien, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas participer. Parce qu'il y a des gens passifs. Il y a des gens qui se disent, ben, moi, le Seigneur m'a sauvé, j'attends la résurrection des morts. Voilà. Pendant ce temps-là, à toi la gloire, etc. Et puis, ils ne font rien d'autre. Ils ne s'occupent même pas de leur propre sanctification. Ça ne va pas. Dieu, justement, le veut, le désire. Non, le potier, par amour pour son vase, a décidé de ne pas en faire un robot, mais un être qui lui ressemble. Et je vous laisse sur quelques derniers versets mystérieux et prodigieux. Ceux du livre de Job, chapitre 38, versets 37 et 38, il est dit « Qui peut avec sagesse compter les nuages et verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble ?» Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que Job, vous savez, Job, c'est peut-être un homme qui a... Bon, Seigneur Jésus a tellement souffert que c'est sûrement Seigneur Jésus qui a souffert. Mais un qui a souffert, c'est bien Job. Hein, c'est bien Job. Et il dit à un moment donné, mais je voudrais mourir. Je voudrais mourir, je peux même pas mourir. Tu me laisses même pas mourir. Je suis en train de gratter mes furoncles et tout ça. Et je peux même pas mourir. Laisse-moi mourir. Quand est-ce que tu arrêteras de... Enfin, que tu me permettras au moins d'avaler ma salive. Il dit ça. Il dit, les mottes de la vallée sont légères à celui qui est mort. Les mottes qui sont... Vraiment, c'est lugubre comme truc. Hein. Et ces fameuses mottes de terre qui viennent sur le cadavre que je voudrais être. Et Dieu dit quelque chose de curieux. Il dit, de verser les outres des cieux pour que la poussière se mette à ruisseler et que les mottes de terre se collent ensemble. Mais certainement que Dieu veut dire quelque chose. Quoi ? Et cet autre verset, au chapitre 38, versets 13 et 14, c'est Dieu qui parle à Job et qui lui dit « As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués, pour que la terre se transforme comme l'argile qui reçoit une empreinte ?» Ah, tilt. Pour que l'argile se transforme, pour qu'elle reçoive une empreinte et qu'elle soit parée d'un vêtement, pour que les méchants soient privés de leur lumière et que le bras qui se lève soit brisé. Je pense que Dieu veut faire comprendre à Job qu'il n'est pas que de l'argile et qu'il y a une empreinte sur sa vie et que l'empreinte de sa vie peut avoir un impact, un témoignage qui va bien plus loin que ce qu'il imagine. Et puis nous, on savait puisqu'on avait lu chapitre 20 de Job, hein, tous, et on savait que l'impact était céleste, hein. Mais voilà, donc ce bloc d'argile misérable qui est sur le tour et qui est en train d'être façonné par le potier, il est juste une vulgaire vase. Ben non, c'est pas vrai. Il a quelque chose, il a une empreinte, ce vase, et une empreinte, cette empreinte que Dieu a mise dans notre cœur. Tu es une empreinte de ma personne, Job. C'est ce qu'il dit Dieu. Tu es une empreinte de ma personne. Tu es une image de ma personne, Job. Tu es une très belle empreinte. Et c'est ce que je voudrais vous dire à vous tous. Vous êtes tous des très belles empreintes de Dieu. Nous sommes tous des très belles empreintes de Dieu. Et enfin, un dernier passage dans Matthieu, au chapitre 22, au verset 20. Jésus répond aux Juifs qui se posaient des questions sur l'obligation de payer des impôts à l'envahisseur romain. Jésus leur répondit, il leur demanda, « De qui ce denier porte-t-il l'effigie et l'inscription ?»«
De César. » répondirent-ils.
Alors il lui répondit, il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Il a dit quelque chose de tellement fort qu'ils sont partis le bec cloué. Mais qu'est-ce qu'il a dit de fort? Ils n'ont rien trouvé à répondre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient bien compris. Ils avaient bien compris. Vous comprenez que ces religieux-là venaient de saisir que l'empreinte de César sur une pièce de monnaie donnait des droits à César sur leur fortune. Parce qu'ils faisaient avec le commerce de l'espace Schengen de l'époque, hein, l'Empire romain, ils en faisaient des sous avec tout ça, hein, avec les deniers romains. Super. L'empreinte de César sur une pièce de monnaie donne des droits à César. Et vous comprenez très bien qu'ils avaient aussi compris que les vases créés par Dieu avaient aussi reçu l'empreinte de Dieu et que cette empreinte sur eux donnait des droits à Dieu pour leur vie. Ainsi, le potier nous aime, il a aussi des droits sur nous et il est tellement respectueux de notre liberté qu'il attend avec une infinie patience que son vase dise « Seigneur, tu as des droits sur moi parce que je suis à ton empreinte. » Nous avons fini. Je vous propose de prier maintenant avec cette intime conviction que nous sommes à son image, mais que nous ne sommes que des vases de miséricorde. Seigneur notre Père, notre Dieu, comment tu es extraordinaire de montrer dans ta parole que il y a beaucoup de choses qui sont intriqués, qui nous semblent inextricables, incompréhensibles. Toi-même, Seigneur, tu es... Ah, on n'arrive pas à te comprendre, Seigneur. Tu es tellement, tellement au-dessus de nous. Mais nous savons aussi que tu nous as regardés avec miséricorde, que tu n'as pas voulu tout balayer, que tu nous regardes depuis la nuit des temps et que, à travers notre descendance depuis Adam et Ève, tu nous voyais déjà. Tu nous voyais tous les vases que nous sommes. Et que malgré les souffrances, les fissures, tous les problèmes, tu seras capable, c'est certain, de nous faire venir dans ton Saint-Temple pour que nous soyons tous ensemble réunis avec toi. Louange à toi, Seigneur, nous voulons, Seigneur, penser à ceux qui sont dans la détresse, ici dans cette salle, mais aussi un peu partout dans le monde, et qu'ils puissent avoir cette vision céleste, cette vision que tu es le Dieu qui est le bon potier, qui est l'artisan de notre vie et qui nous a créés de manière si extraordinaire et si miraculeuse que nous sommes dans l'adoration devant toi. Et nous voulons, Seigneur, marcher avec toi et puis faire un petit pas, Seigneur, parce que nous savons qu'après le premier petit pas,
tu nous aideras à faire encore d'autres pas. Louange à toi, Seigneur. Merci, dans le nom de ton Fils, notre Sauveur. Amen.